Good morning, everybody.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce séminaire de travail sur le RMD ou les modalités de définition et des politiques de pêche à l'avenir en Europe. Dossier particulièrement important depuis la publication en juillet de la proposition de la Commission, proposition qui évoque la définition d'un plafond en matière de quota de pêche qui serait donc le RMD, le rendement maximal durable. Selon les termes de la Commission, il s'agit de maintenir les stocks halieutiques au-delà de ce qui permettrait d'atteindre le RMD. Ceci n'est pas censé, ce n'est pas sans susciter plusieurs interrogations et questionnements de la part de différents acteurs. Qu'est-ce que le RMD ? S'agit-il d'un concept qui ne prête nullement le flanc à la critique ? Peut-on aller au-delà du rendement maximal durable ? Est-ce nécessaire ? La question se pose également de ce qu'est ce concept de rendement maximal durable ou production maximale équilibrée. Pouvons-nous obtenir des explications complémentaires à ce sujet? Devons-nous intégrer ce concept dans le cadre de base législatif? Dans le souci d'éclairer ces questions, nous avons invité plusieurs orateurs à la table aujourd'hui qui tantôt présenteront des critiques assez négatives par rapport à cette proposition, tandis que d'autres se chargeront de défendre ces concepts. Le docteur Rainer Fröse de l'Institut de Leibniz pour les sciences marines, localisé à Kiel, prendra la parole par téléconférence. Nous entendrons le docteur Nick Crane, directeur exécutif ou administrateur délégué de l'autorité de gestion de la pêche australienne. Je le présenterai plus tard, cet orateur, qui sera suivi d'un représentant d'Europêche. Je ne vois pas Javier Galat, mais j'espère qu'il nous rejoindra. Ensuite, en guise de conclusion, la Commission prendra la parole. Son représentant est assis à mes côtés. Je vous le présenterai un peu plus tard. Sans plus attendre, cédons la parole au docteur Rainer Fröse. Comme je l'ai dit, le docteur est une éminence en matière de biologie marine. J'ai lu, docteur, votre parcours professionnel, la longue bibliographie et des ouvrages que vous avez publiés. C'est kilométrique. Vous êtes également le fondateur de FishBase, une banque de données consacrée aux espèces marines et plus spécifiquement aux poissons. Un outil bien précieux pour l'ensemble des biologistes marins sur la planète. Docteur, à vous la parole. Merci de nous expliquer donc ce qu'est ce concept de RMD, ses apports et ses inconvénients. Petit rappel à tout le monde, nous sommes en train peut-être d'essuyer les plâtres. Merci de poser des questions claires et concises. Nous sommes ici pour mieux comprendre ces concepts importants. Docteur, à vous la parole.
Okay, thank you very much.
Merci beaucoup, Isabella. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis biologiste marin de formation, mais je suis également citoyen européen. La gestion des pêcheries en Europe me tient à cœur. J'ai passé plus de 10 ans aux Philippines, Au XXe siècle, j'ai travaillé sur les concepts de pêche dans les pays en voie de développement. Et lorsque je suis revenue, j'ai été choquée de constater que la pêche en Europe n'était pas gérée de meilleure manière que dans les pays en voie de développement. J'ai mené plusieurs études pour faire l'état des lieux et des modalités de pêche aujourd'hui, dresser le panorama de la situation. Je vais partager avec vous certains des résultats glanés par cette expérience. Pourriez-vous, s'il vous plaît, afficher mon diaporama à l'écran? Merci.
Okay. So I call that proper implementation.
Mise en œuvre adéquate du concept de RMD dans la PCP. Je vais donc partager avec vous mon point de vue personnel. Je ne suis pas expert juridique ou juriste, mais je pense qu'on attend de moi un point de vue, un éclairage personnel. Je vais donc passer en revue quatre termes qu'il faut absolument comprendre si l'on se penche sur ce type de dossier. Je vous parlerai du cadre juridique, tout est-il possible, démarrons-nous d'une page blanche ou devons-nous tenir compte du parcours accompli à ce jour. Ensuite, je me pencherai sur la manière dont le concept de RMD peut être appliqué aux réserves halieutiques en Europe. Ensuite, je poserai l'une ou l'autre question qui me chiffonne particulièrement en matière de modalité actuelle et de la pêche aujourd'hui en Europe. Premier concept, la biomasse. La biomasse, c'est le poids corporel de l'ensemble des poissons dans l'eau. Si on retire tous les poissons de l'eau, qu'on les pèse, eh bien, vous obterez le poids total des poissons. Alors, vous aurez des stocks pour le cabillaud en mer du Nord, vous parlerez de biomasse pour le calbe. Parfois, on se réfère tout simplement aux adultes, parfois aux juvéniles, on parle parfois du stock reproducteur en mer du Nord. La biomasse, au fait, c'est le poids des poissons dans l'eau. Voilà. Alors, le RMD, rendement maximal durable. Un autre terme pour prise, capture, débarquement du poisson, si vous voulez être précis, c'est un rendement qui est composé des rejets et des prises débarquées. Donc des rejets et du poisson débarqué. Alors, il y a une portion que vous rejetez, ça ce sont les rejets. Donc le rendement, ce sont les rejet en mer, mais également le poisson est débarqué. C'est ce qu'on retire de la mer et qui est perdu pour la mer. Ça représente environ 20% de la biomasse du poids des poissons dans l'eau que l'on peut retirer chaque année. Mais c'est un retrait définitif. On ne peut pas retirer plus que le stock, on peut en prendre moins. Parce que si l'on va au-delà de cette limite, eh bien, les stocks sont décimés et ne peuvent pas être reconstitués. Lorsque l'on passe de stock, c'est une population exploitée. Et si vous pêchez certains poissons, eh bien, vous pêchez dans des réserves, dans un stock. Stock égale réserve. Alors, le BMS Y, c'est la biomasse que doit présenter une réserve halieutique pour pouvoir atteindre ce rendement maximal durable. Donc, si la réserve est ténue, moins que sa taille habituelle, eh bien, vous ne pourrez pas pêcher jusqu'à ce rendement maximal durable. Pour vous donner une idée, si vous pensez à un stock qui n'est pas du tout exploité, il a une certaine taille, c'est la biomasse, le poids, et puis on pense que le rapport biomasse sur le RMD, eh bien, se situe à 50%. C'est véritablement la réserve qui doit vous permettre d'atteindre le RMD. Ensuite vient un autre terme qui est utilisé dans le monde de la pêche, bien compris par les pêcheurs, mais pas des néophytes, FMSY. C'est la mortalité des poissons, mais c'est la pression de la pêche. C'est une fraction des poissons qui meurent de la pêche. C'est très similaire au pourcentage mentionné précédemment. Donc si vous voulez garder quelque chose dans l'esprit, c'est F02, ça fait 20%. Ce n'est pas le résultat correct de l'équation, mais cela s'en rapproche. Si vous êtes confronté avec des valeurs F, pensez que ce sont donc des pourcentages et cela vous donnera plus ou moins un bon cadre de réflexion. C'est une première valeur approximative. Alors donc, la valeur F, c'est la pression de la pêche qui va réduire la biomasse à peu près 50% de sa taille et qui va vous permettre donc d'atteindre le RMD. On pourra revenir sur ces définitions un peu plus tard, mais voici donc les quatre valeurs, les quatre termes clés qu'il faut garder à l'esprit lorsque l'on parle de pêche. Quelles sont les applications de ces concepts, voici un graphique de 1965 à 2010. Ça, c'est en abscisse. En ordonnée, vous avez la biomasse en bleu et en rouge, le rendement. Et ce sont deux courbes interrompues ici, en pointillé. Vous voyez donc le rendement maximal durable. Vous voyez donc la biomasse qui se rapproche du pointillé. C'est pour donc la morue ou le cabillaud de l'Atlantique Nord. On ne parle pas de chiffres inatteignables pour les réserves en Europe. Si une année on n'avait pas capturé le poisson, eh bien on aurait pu atteindre la valeur BMSY. L'autre pointillé, ça c'est le RMD, ça fait à peu près un peu plus de 20% sur un peu plus de 200 sur 1000. Voici donc les captures acceptables pour le système. Et ici, on va au-delà. Et donc là, est biomasse qui n'était même pas à la valeur pointillée en bleu. Est descendue. La mortalité des poissons, c'est plus difficile à comprendre. Le graphique est un peu plus difficile. Vous avez donc en abscisse 1970 jusqu'à 2015, en ordonnée, la pression de pêche relative à la pression biomasse et du RMD. Voici une petite ligne en pointillé. Vous avez donc la pression exercée par les activités de pêche qui peuvent nous permettre d'atteindre le RMD. En rouge, en gras, c'est la pression de pêche qui était appliquée sur 56 réserves en Europe. Et voyez donc la pression effective sur les réserves. Et c'est ça qui m'a causé ce choc. Parce que cette pression est de 2,5 points supérieurs au niveau qui devrait nous permettre d'atteindre le RMD. Ce qui constitue une menace pour les réserves halieutiques, parce qu'un tel niveau, si vous maintenez ce niveau, cela veut dire que vous serez responsable de l'extinction de la réserve. Alors là, on parle de surpêche, on n'en a pas l'optimum, mais on ne détruira pas la réserve immédiatement. Mais si on atteint ce niveau ici, eh bien, nous décimons les stocks. Ici, vous avez donc une verticale. Ça, c'est l'année d'inauguration de la PCP. Politique qui n'a pas eu d'influence sur les pratiques. C'est une politique, c'est une décision, ce n'est rien de naturel, c'est une décision prise par l'humain concernant les captures, les prises. Et vous voyez que les décisions concernant les captures et les prises sont encore trop élevées et on voit qu'on a légèrement réduit les courbes pour s'éloigner du point de non-retour en matière de surpêche et de décimation définitive des réserves. Vous voyez cette courbe, 75% du rendement qui serait donc pris d'ici 2015 et il faudrait donc procéder à une telle réduction. Ça pourrait être fait cette année, le Conseil pourrait immédiatement de ne permettre une pêche dans aucun, dans aucune des réserves, dans aucun des stocks véritablement en danger. Et les États-Unis l'ont bien fait cette année-ci. Et ils n'ont pêché aux États-Unis pour la première fois cette année-ci dans aucune réserve au-delà du RMD. Donc c'est tout à fait réalisable. Ça, c'est le graphique pour la valeur F, la mortalité. Donc, quelles sont les applications pour les réserves halieutiques? Vous voyez donc, vous avez un abscisse et les années 1990 à 2010. Ensuite, en ordonnée et les prises en millions de tonnes. Vous voyez que pour l'ensemble des réserves, si on gérait au niveau RMD, ce serait 14 millions de tonnes qui seraient pêchées, mais de manière durable, dans nos réserves, les grandes réserves. Mais on ne pêche que la moitié de ceci. Et la tendance est à la baisse, légèrement à la baisse. Voici donc le déficit de prise qui s'explique par une mauvaise gestion. Parlons du cadre juridique maintenant. Donc, partons-nous d'une page blanche? Eh bien non, l'Europe et l'ensemble des États membres sont signataires de la loi de la mer. C'est donc la Convention des Nations Unies sur la loi de la mer en 1982, entrée en vigueur, signée en 1982, mais entrée en vigueur en 1994, une fois le nombre de ratifications minimales atteint. Ce texte exige des pays signataires qu'ils préservent leurs réserves afin de pouvoir atteindre le RMD. Donc ce n'est pas une option, le RMD, c'est une obligation contractuelle, une obligation qui doit être traduite, transposée dans le droit européen et dans le droit national des États membres. L'Espagne, par exemple, doit également transposer ce texte dans sa législation nationale. Deuxième texte de référence où c'est le principe de précaution, qui est un principe fondamental, qui n'est que pure logique et sens commun. Il est ancré dans les traités européens, ce principe. En cas d'incertitude, c'est la marge d'erreur la moins dangereuse qui doit servir d'objectif. Voilà ce que dit ce principe. Explicitement dans les traités, cela doit s'appliquer à l'utilisation, l'exploitation des ressources naturelles. Donc en cas d'incertitude, quant à savoir où se situe la prise maximale, eh bien, il faut prendre comme référence le niveau le plus bas, le niveau inférieur. C'est la traduction de ce principe de précaution et il y a l'accord des Nations Unies FSA qui clarifie les efforts de reconstitution et le taux de mortalité. La valeur F doit être inférieure à la variable FMSY. Après phase de reconstruction, reconstitution de la réserve, bon, la valeur F peut être, être une référence, mais doit être inférieure une fois le stock reconstruit à la valeur FMSY. Seuls 3 pays dans le monde ont mis en œuvre et les prescriptions que je viens de décrire. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis, pour les citer. Ces 3 pays mettent également en œuvre ce principe de précaution et cette marge en dessus de la valeur FMSY. Aux États-Unis, ce sont 75% de la valeur FMSY qui est appliquée pour les activités de pêche. La même chose est appliquée en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et les réserves se sont reconstituées, les subventions ont été revues à la baisse, les activités sont rentables. Avant, on avait des chiffres de 0,4% négatifs en Europe et dans ces 3 pays, mais ces 3 pays sont parvenus à redresser ces chiffres de rendement. Pourquoi une mise en œuvre correcte du concept de RMD relève d'une importance mondiale? Parce que l'Union européenne est l'importateur numéro un dans le monde. 42% du poisson négocié est importé en Europe. Si nous mettons en œuvre de manière correcte la loi de la mer et la convention, l'accord des Nations Unies sur les réserves halieutiques, nous pourrions, avec les trois pays précités, créer un grand bloc de pays suivant ces règles. Et je pense que nous pourrions faire des émules partout sur la planète. Mais le contraire est également vrai. Si l'Europe échoue à relever ce défi et ne passe pas à l'action et met en œuvre correctement ses principes, s'éloigne du bon exemple donné par ces trois pays, eh bien, l'Europe risque de connaître un recul et de se retrouver dans une situation particulièrement précaire. Les États-Unis importe également du poisson, si ce sont 1,2 milliard de poissons pêchés en Europe qui pourraient être exportés vers les États-Unis parce que les États-Unis restent un importateur important de poissons. Alors, je parlerai de la proposition mise sur la table par la Commission. Elle me plaît, je dois vous dire. La plupart des raisonnements tiennent la route. Bon, on peut en débattre, mais c'est un bon suivi du livre vert qui fut une bonne première étape pour faire un état des lieux des problématiques. Et la proposition de règlement apporte une avancée, elle n'est pas parfaite, elle prête le flanc à la critique, mais dans l'ensemble, elle est une bonne et pure. Ce qui doit être conservé dans cette proposition de règlement, si nous voulons que le système fonctionne, ce sont les articles CIT et autres qui stipulent explicitement que les réserves doivent être conservées au-delà des niveaux qui peuvent produire le RMD. Donc il faut accepter d'abord le concept de RMD tel que prescrit par la loi de la mer, ensuite appliquer le principe de précaution, donc pêcher moins pour que le stock reste supérieur, parce que sinon, eh bien, le stock sera décimé. C'est la manière dont la proposition de règlement est libellée, et c'est tout à fait correct, et ce libellé doit être conservé. Une telle proposition nous alignerait sur la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis. Nous leur emboîterions le pas. Oui, je... Avec un micro, s'il vous plaît. Madame pourrait-elle allumer son micro?
Malheureusement, il n'y a pas de microphone. Excusez-moi. Donc, l'article 6 veut dire que l'on parle donc de B, MSY. Non, je ne peux pas le lire, l'interpréter autrement. Non, moi non plus. Mais ici, on parle, c'est ce qu'ils disent, du moins, qu'ils parlent de F, mais pas de B. Mais le FMSY voudrait dire, donc, une surexploitation. Ça peut être un point de discussion. On pourrait les clarifier. Et donc, lorsque l'on interprète en utilisant un peu de bon sens. D'abord, si c'est le biomasse, oui. Si c'est la pression, le F, ce n'est pas... parce que c'est au-dessus de la ligne. Enfin, qui suis-je pour donner la bonne explication? Bon, espérons que cela se passe bien. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant ici? Donc, vous avez un peu de données scientifiques, mais nous appliquons les quatre termes que nous avons appris. En ordonnée, plutôt en abscisse, 1... veut dire le niveau MSY, donc plutôt RMD ici, en étant de ça, de niveau ici, vous êtes au-dessus du niveau. En ordonnée, vous avez les prises ou le nombre débarqué. Ici, c'est le niveau RMD et le rouge, cela veut dire que vous êtes en dessous. Si vous le faites, à ce moment-là, la ligne verte est une relation entre la prise et la biomasse. Si vous restez 10% en dessous du rendement maximal, cela vous donne 30% au-delà de la biomasse. Donc, ce qui est bien avec cette courbe, il faut donc pour des petites prises une grande augmentation de la biomasse. Donc, on bénéficie de quelque chose, car manifestement la marge d'incertitude avec les prises est relativement haute, mais nous avons quand même une certaine sécurité en prenant la biomasse avec une petite réduction des prises. Ce serait donc les règles de contrôle du rendement, et cela peut être utilisé pour toutes les réserves en Europe, parce que dans la partie du nord, en Europe, on a 190 espèces. Mais je crois que la règle peut être appliquée à tout le monde. Alors, ici, c'est où nous nous trouvons actuellement avec la plupart des réserves européennes. Ils sont en dessous des niveaux RMD. La bonne nouvelle, certains sont tout auprès de la bonne section. Ensuite, réfléchissons. Qu'est-ce que cela veut dire donc en deçà et au-dessus le niveau RMD? Pour le moment, on est en dessous. Nous savons, nous trouvons, donc nous avons souligné les écosystèmes. Voilà pourquoi d'ailleurs nous faisons des efforts afin donc d'en arriver à un équilibre environnemental. Nous avons donc les écosystèmes, comme je l'ai dit. Nous avons petits poissons beaucoup plus petits qu'ils ne l'étaient avant, petites réserves beaucoup plus qu'auparavant, et nous avons de grandes fluctuations quant aux réserves, parce que ici donc c'est les jeunes de l'année, tandis que les jeunes, ce n'est que 10% des réserves. Si là il y a une fluctuation, la réserve ou le stock ne fluctue pas énormément. Ici, c'est uniquement les jeunes de l'année. Donc, c'est ce que nous avons actuellement. Et à cause de ce phénomène, nous avons des petites prises et nous avons également des incertitudes. Pourquoi nous devons se battre tous les ans? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Ayant directement une influence sur les réserves. Alors, il y a pas mal d'efforts qui sont nécessaires pour la prise et un coût très élevé pour la prise également. Il faut vraiment aller très loin pour trouver les moindres petits recoins où ils se trouvent, utilisant évidemment énormément de combustible, etc. À cause de cela, les bénéfices sont assez bas et parfois, pas de bénéfices du tout. Alors, il est impossible d'avoir peu d'impact. Donc, dans la situation actuelle, il y a beaucoup de controverses, car avec un équipement moins efficace, cela devient de plus en plus difficile de faire des prises. Voilà pourquoi on est en deçà donc du niveau RDM. Maintenant, la problématique des MPA, parce qu'il y a tellement peu de poissons, on ne peut pas les pêcher dans certaines zones, et cela rend les prises encore plus difficiles. Et à cause de tout cela, des subsides sont nécessaires afin de garder la pêche active. Sinon, il y aurait beaucoup de faillites. Et également, le statut social assez bas. Alors, c'est tout à fait différent d'il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, on a un problème. Là, au moins, c'est clair. Et le statut des pêcheurs, ils sont ils sont à la défensive. Et ils sont évidemment considérés comme étant des personnes têtues et qui font de la surexploitation. Alors, il y a également un problème social. Maintenant, regardons donc le paradis. Donc, après avoir visité l'enfer, alors, au-dessus, donc ça veut dire des écosystèmes en pleine santé. Pourquoi? Parce que il y a des grands poissons. Les grands poissons peuvent jouer le rôle de prédateurs. Et donc, c'est un contrôle du haut vers le bas. Nous avons également pas mal de réserves, beaucoup plus proches de sa dimension naturelle. Certains seraient à 2/3 ou 3/4. Et alors, évidemment, il y a des prises très proches des maximums. Donc, toujours de très bonnes prises. Également, vu qu'ils sont plus grands, il y a moins de fluctuations. Ce sera donc beaucoup plus stable, car nous avons beaucoup de grands poissons qui ont plus d'œufs. Les œufs sont plus grands et produisent plus de jeunes restant en vie, donc moins de fluctuations dans les prises. Alors, évidemment, ici, les prises sont assez élevées et il y a donc aussi la certitude. Si c'est au-delà donc du niveau RDM, vous savez ce que vous allez prendre pour 5 ou 10 ans. Vous connaissez le contenu de la prise, point à la ligne. Pour le moment, on ne peut même pas y songer. Alors également, à cause du fait qu'il y a pas mal de poissons, il y a très peu d'efforts à faire, à un coût moindre. Et si vous y allez en chalut, donc vous avez une plus grande prise pour moins d'efforts et moins de coûts, et donc des bénéfices beaucoup plus élevés, bien sûr. Alors également, avec l'équipement actuel, donc vous mettez donc là aussi, il y a certains pièges, mais si vous avez des grandes réserves mises aux bons endroits, il y a donc des machines ou un équipement qui aura un faible impact. Également, donc pas de problème non plus pour la MPA, hein. Il n'y a pas cette nécessité d'aller vraiment dans le dernier petit coin, de se battre pour des journées de pêche supplémentaires. Quand ils sortent, ils savent qu'ils vont avoir une prise lorsque la saison est appropriée, le marché, la saison, etc. Et des subsides, après tout, ne sont peut-être pas nécessaires. Et on peut s'attendre à ce que le statut social change également vers des tuteurs, vers des gardiens respectés, une personne qui sait ce qui va pêcher. Voilà les deux scénarios que je voudrais vous présenter. C'est comme un boulevard, j'essaie de vous guider donc à travers toutes ces difficultés de la façon la plus appropriée. Bon, se mettre d'accord sur cela n'est pas tellement difficile, mais comment y arriver? Voilà donc où commencent les problèmes. Je travaille avec des économistes et ils me disent, notamment, il n'y a pas moyen de le contourner. Plus vite vous allez arriver donc le niveau au-delà donc des RMD, à ce moment-là, plus intéressants seront les bénéfices en général. Mais maintenant, quel est l'arrêt qu'il faut imposer? Une année serait suffisante, pour d'autres, cela pourrait prendre 3 ans. Mais ce n'est pas 10 ans, pas 5 ans, pas 30 ans. C'est de 1 à 3 pour certaines espèces, peut-être moins. Bon, évidemment, les pêcheurs ne l'aiment pas, donc j'arrive à d'autres options, mais je voudrais vous dire, ça c'est la façon la plus rapide et la plus rendable. Alors, ici c'est une simulation pour le cabillaud de la mer du Nord, c'est un des exemples où il y a vraiment une mauvaise gestion des ressources, donc en dehors des limites biologiques. Et ici, vous voyez donc les prises. Ici sont donc les prises entre 2003 et 2011. En 2003, les scientifiques ont dit donc fermer, arrêter, ou vous allez perdre les réserves. Et alors ici, on simule si cela était fait. Alors nous assumons que les rejets donc continuent, mais donc un arrêt pendant 3 ans, réouverture là en haut, j'ai le curseur, et là les prises seraient beaucoup plus importantes. Là il y avait donc une accumulation qui est beaucoup plus importante. Qu'est-ce que cela veut dire pour la biomasse si vous vous arrêtez pendant 3 ans? Ici la biomasse va augmenter, et cela c'est ce qui se passe vraiment dans la mer. si les jeunes poissons n'avaient pas été pêchés, si on les avait laissés dans la mer le temps d'une croissance, voilà, c'est qui était vraiment. Mais malheureusement, voilà la biomasse que nous avons, et ça c'est la biomasse qu'on aurait eue en laissant, en leur laissant la paix, en n'y touchant pas pendant une certaine période. C'est donc une biomasse qui est 10 fois plus élevée que celle que nous avons actuellement. En regardant maintenant les bénéfices, pas de profit pendant 3 ans, mais déjà dans la première année, un profit assez important, tout en augmentant. Et ici, vous voyez, donc, c'est donc le profit actuel donc, pour le moment et ce qu'on pourrait avoir. Et ça, c'est donc évidemment un transparent fait par des économistes. C'était un exemple, même dans des cas extrêmes comme le cabillaud de la mer du Nord, une petite fermeture pourrait aider. Maintenant, si on ne veut pas fermer, quelles sont les autres options? Il y a certaines réserves qui sont déjà pêchées, donc tout près du niveau F. Qu'est-ce qu'il faut faire? Réduire des 10% et donc à 0,9. Et là, la réserve va évidemment croître pour arriver au bon niveau. Pour des espèces sensibles ou limitées, donc réduire la prise un peu plus. Là, donc, ce sont des chiffres qui sont débattus sur le plan international, parce qu'on ne peut pas, donc, il faut, disons, que tout cela se fasse en parallèle. Donc, c'est quelque chose de facile. Donc, après une année déjà, les personnes vont commencer à en bénéficier plus dur. Pour les réserves où la mortalité est plus élevée, ici, il faut suivre la transition et l'accord que nous avons actuellement. Et donc, réduire la mortalité à un FMSY. Et donc aussi, ce que l'on recommande, donc c'est la mise en œuvre. Pas pour toutes les réserves, mais donc c'est suivi également par le Conseil. Mais dès que vous l'avez atteint, le point 1 s'applique à nouveau. Mais alors également une autre option sans peine, le recrutement connaît des fluctuations, on peut avoir donc une entrée de jeunes poissons, alors si on a ça maintenant, à ce moment-là, évidemment, les prises sont augmentées, parce qu'il y a une prise de jeunes poissons, mais ne le faites pas pendant une année, et à ce moment-là, commencez à augmenter progressivement 10 ou 15%. Donc, si vous avez une bonne entrée, bon, à ce moment-là, donnez le temps de croître, parce que les poissons ont double de poids en un an. Et ensuite, on peut commencer à augmenter les prises. Et si vous le faites donc sans peine, donc sans effort, là, vous pouvez reconstituer les stocks. Ici, une fois de plus, on regarde la biomasse et le rendement pour le cabillaud de la mer Baltique. Ici, il y avait donc 30% meilleur que les prises de l'année précédente, mais malheureusement, ils n'ont pas augmenté les prises et ils l'ont gardé ici, donc bas. Et regardez la biomasse, donc là, une augmentation. Et donc, il y a encore du temps pour atteindre la ligne bleue pointillée. Mais bon, ils ont commencé cette ligne, maintenant, suit. Mais bon, elle accuse un certain retard et on aura donc une reconstitution de cabillaud de la mer Baltique à l'est. Alors, je touche à la fin, j'espère que j'ai respecté le temps. Le deuxième point très important, c'est l'article 16 qui constitue un point très important. Et il est dit donc que le Conseil des ministres doit établir les possibilités de pêche chaque année, donc annuellement. Donc continuer à établir pour 190 espèces, une centaine d'espèces dans la Méditerranée. Évidemment, vous savez comment cela fonctionne. Il y a plusieurs sessions, il y a un processus que nous ne comprenons pas très bien, il y a la fin, Et donc, par le passé, il y avait toujours des prises qui étaient établies au-delà de, donc, des conseils scientifiques, donc au-delà d'un pourcentage d'environ 40%. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc. Alors, ainsi, donc, même dans le cas où le conseil s'est décidé sur des plans à long terme, même si c'était publié dans le journal officiel, lorsque la prochaine session est arrivée, ils ont décidé tout simplement de l'ignorer et de faire tout à fait autre chose. Ainsi, si cela reste, peu importe la nouvelle politique commune en matière de pêche, si chaque année c'est rediscuté pour voir si on peut l'appliquer ou pas, non, ça ne va pas. Donc, ça doit être une micro-gestion, mais pas politique, parce qu'on ne peut pas vraiment négocier ou faire des compromis avec la nature. Je crois que cet article 16 doit être changé. Il faut reformuler, oui, le Conseil responsable pour la politique avec le Parlement européen, donc selon la déclaration de Lisbonne, etc. Mais les plans de gestion à long terme, les règles sont établies, mais l'application donc de la règle doit être faite par l'administration. Ce n'est pas quelque chose qui est le seul droit du Conseil des ministres ou du Parlement européen. Cela doit être géré. Et donc, c'est comme ça que notre système juridique fonctionne. Et c'est une des raisons pourquoi, donc, actuellement, il y a des problèmes. Voilà, ici, quelques références, quelques remerciements. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Raina. Je ne voulais pas vous interrompre parce que, bon, vous avez dépassé un peu le temps qui vous était imparti de 10 minutes. Mais bon, donc nous allons poursuivre, nous allons faire les questions par la suite. Et maintenant, je voudrais aller tout à fait donc au sud, le docteur Nick Rains de l'Australie, qui donc travaille pour l'autorité de la gestion de la pêche. Donc il a décidé, il était d'accord de se joindre à nous pour nous faire part de l'expérience australienne. Et là donc, ils appliquent le RMD, mais sont allés un pas plus loin en ce qui concerne les règles du contrôle du rendement. Ah, il est absent. Donc, plus tard, on va essayer d'établir la connexion, donc, qui nous parlera du rendement maximal économique, et qui est tout à fait aligné sur ce que M. Freuse a expliqué. Donc, il y a le niveau politique, et ensuite, c'est à l'administration ou aux responsables de décider. Donc il faut que les modèles scientifiques puissent être appliqués. Donc, bon, deux questions. Et ensuite, je donnerai la parole au prochain orateur, tout en attendant M. Nick Rains. Y a-t-il des questions pour M. Rainer Freuse? Tout était clair comme de l'eau de roche, apparemment. Il n'y a pas de commentaire. Mais ce que j'ai noté, c'est qu'en appliquant les RMD, on pourrait augmenter les prises de 6 millions de tonnes à 13 millions de tonnes par an. Et ayant beaucoup plus de poissons dans la mer, et en gardant en pleine santé notre écosystème, voilà ce qui se passerait si on applique ce modèle de RMD. Oui, c'est tout à fait correct. Nous avons dit que cela doit être quelque chose comme 63% si on applique la règle du 0,9. Mais toujours est-il, avec 63%, on pourrait augmenter les prises européennes. Et ça, c'est donc notamment le volume que nous importons. Et alors, il y aura également moins de pression sur les ressources en Afrique et ailleurs. On devrait avoir moins de pression à ce moment-là. Merci, Raina. Et je crois que maintenant, j'aimerais bien donner la parole à M. Kara, qui est le secrétaire général de l'Association de pêche en Espagne et président de Europêche. Et vous que nous parlons de degré, vous avez également un degré en droit international. On est très heureux de vous accueillir. Donc, vous avez la parole pendant 20 minutes.
Thank you very much and thank you.
Je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir convié à vous rejoindre aujourd'hui. Je pense que la contribution présentée par M. Freuse était d'excellente facture, limpide. Je suis certain que tout le monde dans la salle a compris les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas scientifique de formation, comme vous l'avez rappelé, et je me garderai bien de m'engager sur le terrain scientifique. Je n'ai pas carte pour le faire. Chez Europêche, la plupart de nos membres ne discutent pas du RMD. Ils pensent que c'est un objectif. Anklos, Johannesburg et ailleurs, on a choisi ce concept et aujourd'hui à Bruxelles, on choisit également de faire de ce concept un objectif. Nous ne le remettons pas en question. Franchement, les pêcheurs n'ont jamais entendu parler du RMD, ce qui sous-tend ce concept, quelles sont les limites biologiques. Ils savent, les pêcheurs, qu'ils doivent pêcher, mais pêcher de manière durable. Ils font confiance aux scientifiques qui mettent des recommandations et tenter de faire confiance, ce qui n'est pas toujours facile, et les élus politiques chargés de gérer les ressources. Le problème et la question qui se pose est le suivant. Comment atteindre le niveau RMD? C'est une interrogation centrale. À un horizon de 2 ou 3 ans, pourquoi pas? C'est un objectif théorique d'un point de vue pratique. C'est autre chose, tout particulièrement lorsqu'on se place du point de vue du pêcheur. C'est une alternative qui pourrait être appliquée, certes, mais dans certains cas précis, pas urbi et orbi. Ça ne doit pas se faire au détriment de l'emploi, des entreprises, des économies, des régions. Et pour nous, c'est très important. Une autre réalité ici, au niveau de l'Union européenne, c'est de longue date, dans les conventions internationales, le RMD a été consacré comme un objectif. À Johannesburg, en 2015, si possible, nous devrions voir concrétiser cet objectif. La réalité ici, en Union européenne, nous amène à mi-parcours. Il y a encore 2-3 ans, ceci ne relevait pas des objectifs poursuivis. Après la réforme de la PCP en 2002, de nombreux plans de reconstitution, de gestion ont été mis en place. La plupart de ces plans poursuivaient l'objectif d'une limite biologique sûre et non pas le RMD. Les élus politiques, en l'occurrence, ont décidé de faire de la limite biologique sûre l'objectif. La plupart de nos réserves aujourd'hui, grâce à ces plans, sont gérées dans les limites biologiques sûres. Ce qui est une avancée par rapport au passé. J'aimerais vous expliquer comment les pêcheurs envisagent la situation, le passage de la limite biologique sûre vers le RMD. Je prendrai l'exemple du plan de reconstitution pour la mer du Nord, discuté avant 2002, mis en place sur la base de son jalon qui est la limite biologique sûre. Nous avons dû réduire l'effort de pêche, réduire la mortalité, bien sûr. Beaucoup de vaisseaux ont été désarmés, déclassés, et beaucoup de pêcheurs ont perdu leur emploi. Mais la reconstitution du stock est allée même au-delà des espérances des élus politiques, au-delà des espérances des scientifiques. La situation était la suivante. Les pêcheurs ont voulu donc franchir un sommet en passant par son point le plus haut, en réduisant l'effort de pêche, en réduisant la mortalité. Et donc, les pêcheurs ont gravi cette montagne, sont arrivés au sommet, en allant plus loin que les attentes des scientifiques et les attentes des élus politiques. Et tout en haut de ce sommet, les pêcheurs se sont entendus dire « Non, 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 vous n'avez pas atteint le sommet. Il faut atteindre un autre sommet bien plus élevé, qui est le RMD. » Ce fut un choc, vous l'imaginez aisément, pour les pêcheurs. Qui voyait qu'il y avait beaucoup de poissons, de merlus par exemple, dans les mers, et qu'ils ne pouvaient pas les pêcher. C'est un sacrifice. Mais voilà, la politique était telle, il fallait se conformer aux règlements, et donc suivre la ligne donnée. Ce dont nous avons discuté dans certains cas pour les pêcheries très, très spécifiques, qu'avons-nous à faire à l'horizon 2016? Vous allez me dire, mais Johannesburg, c'est un horizon à 2015, il faut le tenir, ne nous servez pas de fausses excuses, mais pour le moment, nous avons fait d'énormes sacrifice dans certaines pêcheries, certaines s'en sortent, d'autres moins. Mais le sacrifice a tout de même été consenti. Pour arriver à ce nouvel objectif mis en place dans notre législation il y a à peine 2-3 ans et pas avant, et là, la responsabilité est à mettre sur les épaules des élus politiques et pas sur les épaules des pêcheurs. Les pêcheurs ne fixent pas les objectifs. Donc, je suppose que ce sont les élus politiques qui ont fixé ces objectifs à eux de s'exprimer en la matière. Donc, ils ont fixé donc cette date sacrée de 2015 pour certains d'entre vous et pour certaines pêcheries. L'effort sera moins douloureux d'arriver donc à ce RMD. Mais par contre, pour d'autres pêcheries, atteindre le RMD à l'horizon est défini sera synonyme de sacrifice trop douloureux, insupportable. L'Union européenne demande donc que certaines pêcheries, que certains pêcheurs consentent à nouveau à d'énormes sacrifices. Cela passera mal. Notre revendication est la suivante. Voici le RMD qui doit être l'objectif, c'est clair. La plupart de nos réserves se situent dans le cadre des plans de gestion à long terme ou plans de reconstitution. La plupart des stocks sont concernés par ces plans. Donc le Conseil des ministres n'a pas changé les quotas. Et pourtant, c'était en porte-à-faux avec les plans de gestion à long terme. Certaines exceptions seront permises, je pense, mais pourtant que je sache, l'ensemble des discussions menées en conseil, alors que nous, pêcheurs, avons tenté de convaincre les élus politiques que les plans de gestion à long terme et leurs objectifs en termes de mortalité des poissons, par exemple, n'étaient pas parfaits parce qu'il y a eu une reconstitution plus rapide que prévu. Bon, ça n'a rien changé, même pas une virgule. Ils ont établi des quotas plus 15, moins 15, moins je sais pas quoi, établis dans le cadre des plans de gestion à long terme. Il y a peut-être des exceptions, je ne les connais pas, mais en règle générale, je peux vous dire que le Conseil des ministres a respecté les prescriptions de ces plans de gestion à long terme. Notre revendication, comme j'ai dit, est que dans ces cas comme ces pêcheries à spécificité multiple, ce que j'attends de vous, experts, c'est que vous m'éclairiez. Comment tenir compte des spécificités multiples de ces pêcheries, les gestionnaires, les scientifiques, je les ai interrogés, et jusqu'à présent ne m'ont pas fourni une bonne réponse sur les conséquences qu'auront ces efforts supplémentaires. RMD, oui, d'accord. Mais attention, si vous vous fixez comme horizon 2015 pour certaines pêcheries, et les conséquences seront particulièrement délétères. Délétères pour les entreprises, pour les pêcheurs et pour les communautés littorales. Mais je ne suis pas spécialiste de nature. La semaine dernière, j'ai écouté Maxime Partor, qui a parlé donc à nouveau du RMD, un exposé particulièrement intéressant que j'aimerais citer par quelques phrases. Mon message principal est que le RMD n'est pas la panacée qui va tout sauver, mais cela peut nous donner une bonne direction pour accomplir le parcours à franchir. Ce ne sont pas les valeurs chiffrées qui comptent, mais la manière de les obtenir. Et j'aimerais le citer à nouveau dans ses conclusions. Le point de référence pour le RMD sont des approximations sur base de deux modèles. Les détenteurs d'enjeux, les décideurs politiques et les scientifiques doivent se réunir pour bien comprendre les tenants et les aboutissants des dossiers. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons emprunter la bonne direction. À son écoute, je me suis dit que voilà quelqu'un qui tient un discours correct. Dans la communauté scientifique, il y a des doutes et des incertitudes sur le point spécifique, précis, le niveau précis de du RMD, il y a des approximations. Et son message final était le suivant. Une fois que nous aurons compris que le RMD est un objectif, pourquoi ne pas nous réunir tous ensemble, dire nos enjeux scientifiques et du politique, pour nous accorder sur un modus operandi, plutôt que de nous crêper le chignon, lutter les uns contre les autres, industriels, artisans, etc. Je vous avoue être là, très 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 là, de ce débat. Les Verts ont une position très très stricte. Voici notre parole d'évangile, c'est comme cela qu'il faut procéder. Et l'industrie dit, ah non, on ne peut pas seul permettre, ça nous coûtera trop d'argent, ça nous coûtera trop d'emplois. Et donc les positions sont très campées. Et je dois vous dire que je suis là de voir les positions campées de manière aussi inflexible. L'industrie, mais également les Verts, doivent chacun mettre de l'eau dans leur vin et faire fi de leurs extrémismes. L'extrémisme, quel que soit le parti qu'il défend, n'est pas constructif. C'est vrai que certains messages apocalyptiques ne permettent pas de mieux gérer les réserves parce qu'ils font la passe sur les efforts réalisés par l'industrie, par les scientifiques et par les gestionnaires des réserves. Et c'est le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Et ce sera ma conclusion. Merci beaucoup.
Thank you for that.
Merci à vous, Javier. Je suis d'accord avec vous. Il serait bon que nous déposions les armes et que nous nous réunissions pour envisager les bénéfices communs d'une meilleure santé de nos océans, de nos mers, les premiers à bénéficier de cette approche. Et d'une meilleure santé de nos mers seront les pêcheurs qui pourront pêcher à des niveaux beaucoup plus rentables. Nous devrions pouvoir nous réunir tous ensemble pour dégager une position commune. Toujours personne de l'autre côté de la planète. Rainer, vous souhaitiez partager quelques commentaires. Je voulais dire que je souhaite que les pêcheurs maximalisent aussi rapidement que possible leurs profits, leurs bénéfices. Votre stratégie actuelle, obtenir le RMD au-delà de 2015, est la bonne voie à suivre. Asseyons-nous ensemble autour de quelques dossiers, autour de quelques scénarios d'ajustement de la mortalité, de la biomasse, etc., pour essayer réduire les niveaux actuels au FMSY. Si l'on en agit immédiatement, cela veut dire que plus de pêcheurs s'ouvriront et leurs exploitations de l'activité seront plus rentables. Ben, c'est vrai que dans un premier temps, durant l'année, vous aurez moins, mais après vous aurez toujours un peu plus. et vous dépasserez très rapidement le niveau atteint actuel. Donc en 5 ans, 10 ans, les pêcheries gagneront plus d'argent si vous suivez cette stratégie. Plus que si on en restait au modus operandi actuel. Si les pêcheurs procèdent de la sorte, on va atteindre le rendement économique maximal, le MEY australien, et vous permettrez à vos activités de pêche de gagner un peu en croissance. Donc le rendement économique maximal est inférieur au niveau atteint par la biomasse par capture. Donc choisissons les populations, faisons un choix de gagner moins durant une première année et puis après gagner plus. Je comprends votre point de vue, mais j'ai une question. Que faire avec ces pêcheurs qui, durant cette année ou ces deux années, devront rester à quai? Alors, une option, c'est le déclassement et des... Non, je pense à la réduction des fonds de pêche. Mais nous avons 10 navires ou 100 navires de pêche. Si vous voulez atteindre cet objectif, vous devrez probablement réduire le nombre de la flotte et de 100 passer à 75 navires. Et deux ans plus tard, ces 100 navires pourront faire des captures rentables. Comme vous le dites, la reconstitution aura eu lieu. Mais dans l'intervalle, que faire? Que faire de ces navires? L'idée n'est pas de déclasser 25% de la flotte. Ce que je me propose, c'est que l'année prochaine, vous réduisiez vos captures de moitié, mais vous ne pouvez pas simplement laisser les navires à quai, mais forcer les pêcheurs à pêcher deux fois moins. Et vous arriverez l'année suivante à 75% et puis au-delà. C'est la manière de rendre vos activités plus rentable que le modus operandi actuel. Si l'on poursuit la surpêche, c'est comme si vous pompiez tout votre crédit auprès de la banque. On est en train de pêcher à crédit dans les océans. Et bientôt, les océans seront vides. C'est dingue, cette surpêche. On pêche beaucoup trop. Mais alors, face à votre banquier, si vous voulez faire des bénéfices, vous prenez un crédit, il y a des intérêts, 5-6%, même parfois moins. Même si les pêcheurs, pour la perte de leur profit durant la première année, ouvraient un crédit économique, cela tiendrait toujours la route. Mais là, les élus politiques pourraient intervenir et dire « Oui, mais attendez, durant cette année, vos bénéfices seront bien moindres, mais nous vous proposons des lignes de crédit à zéro intérêt, 0% d'intérêt, comme ça, vous courez moins de danger. » Ça, c'est une option. C'est le genre de revendication que devraient exprimer les pêcheurs, les associations qui les représentent. Alors, qui vont dire « Oui, nous aimerions atteindre cette situation idéale telle que vous l'avez décrite, mais ce sera difficile. Il faut procéder de la sorte sans décimer les réserves. » Je suis d'accord avec vous. Une fois que les réserves seront reconstituées et que la situation se sera améliorée, ça dépendra des pays, eh bien, on aura toujours besoin de pêcheurs. Mais bon, et on n'a qu'un seul camembert. Si on est trop nombreux à picorer ce camembert, eh bien, il ne restera plus que la boîte vide. Oui, Chris, vous souhaitiez poser une question. Oui, c'est toujours sur la même thématique. La chose la plus encourageante qui a été dite aujourd'hui, c'est la rapidité de la reconstitution des stocks. Moi, ce que je retiens, c'est la rapidité de la constitution des stocks. Donc, ce qui est plus le plus encourageant pour moi, c'est la rapidité de reconstitution des stocks. C'est bien plus que ce à quoi je ne m'attendais. Mais comment passer de A à B? Comment parcourir le chemin? On vient de décrire précisément un scénario que les États membres pourraient mettre en place avec des arrangements avec les banques, mise en place de garanties bancaires, de crédits bancaires à 0% d'intérêt. On pourrait le faire. Mais quelqu'un a déjà... a-t-il déjà tenté l'exercice? Y a-t-il des exemples de mise en place de tels projets de par le monde? C'est dommage que nos collègues australiens, ils ont deux programmes de rachat pour réduire les flottes. C'est un concept qui est assez proche de ce que je disais. Cela donne aux pêcheurs la possibilité de se retirer de l'activité de manière décente. Et c'est vrai que une partie de la main de recette fiscale doit être consacrée à cela, mais bon, d'autres resteront en place et auront un meilleur revenu. Dans l'exemple dont on a parlé, je n'ai pas modèle en tête. Pourquoi l'Europe n'aurait-elle pas le courage d'essuyer les plâtre? Bon, on a trois pays qui montrent une certaine voie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les États-Unis. Et les États-Unis ont toujours des difficultés. Ils ont mis en place et les outils législatifs, mais ils n'ont pas encore atteint le point B. Ils rencontrent encore de sérieuses difficultés, de sérieux écueils entre A et B. Voilà. Lorsque vous suivez la potentielle rapidité de reconstitution des stocks, et les montants d'argent public qui ont déjà été consacrés à des fonds pêche, fonds structurels pour la pêche, programmes de déclassement des navires, etc., la possibilité de mettre en place des garanties publiques ou des crédits à 0% garantis par l'État, me semble assez attrayant. C'est quelque chose qui mérite en tout cas réflexion et mérite qu'on le mette en place. Je sais que dans certains États membres, ils ont tenté de mettre en place, notamment en France, des programmes de gestion. Mais nous savons que dans certains pays, il existe la volonté de mettre en place le RMD aussi rapidement que possible dans leur législation nationale, donc avoir des réserves qui aillent au-delà du niveau du RMD là où c'est possible. Et on en a déjà parlé, si ces concepts entrent dans la législation communautaire, il faut définir également le quand c'est possible. Vos réflexions, Hannah?
Fondamentalement, disons, la vitesse à laquelle les réserves vont augmenter, c'est donc la croissance intrinsèque de certaines espèces. Et certains, pour se reconstituer, ont besoin de centre, tandis que d'autres espèces, comme je vous ai montré, et la plupart de nos espèces ont la chance, là donc, le taux d'augmentation est assez rapide et le taux est assez élevé. Alors, est-ce que cette réserve peut se reconstituer, oui ou non? Ça, c'est une question à se poser. Mais donc, on peut l'aborder d'un côté scientifique. Oui, c'est très important, d'ailleurs. Si ces mots seront introduits, il faut évidemment avoir une définition. Alors, ça ne doit pas laisser la porte ouverte à un refus de mise en œuvre. Oui, deux commentaires, oui. Premièrement, en ce qui concerne ce dernier commentaire, la semaine passée, Ernesto Penas, au Parlement européen, lors de l'audition, a dit qu'il savait, même s'il ferme certaines usines de pêche, même s'ils arrêtent du jour au lendemain, ce serait très difficile d'atteindre le RMD d'ici 2015. Alors, je crois que avec la garantie des gouvernements, cela peut aider. Mais si vous allez aux banques, vous connaissez les banques, évidemment, même les entreprises qui sont rentables, qui ont de l'argent, c'est très difficile d'obtenir de l'argent des banques, tandis qu'il y a des situations où, par exemple, certaines entreprises ne font pas des bénéfices, et d'autres oui, d'autres non. Les banques vont tout simplement refuser. Oui, merci Javier pour cette réponse. Maintenant, on est très curieux d'en apprendre un peu plus par M. Nick Rains, que j'ai déjà présenté plusieurs fois ce matin. Malheureusement, il n'y avait pas de connexion. Alors, en Australie, Nous essayons donc de trouver les bons exemples. Nous sommes très heureux que vous êtes ici parmi nous et que vous partagez votre expérience australienne, pas uniquement en matière donc de RMD, mais même donc vous avez le rendement maximal économique, ce que nous n'avons pas encore en Europe, mais la Commission a proposé d'introduire les limites de quotas donc au niveau du RMD. Mais Nick, si vous pouvez nous expliquer comment vous procédez, et là je voudrais vous dire, donc une fois de plus, que vous êtes du côté du gouvernement australien, donc vous faites partie des autorités qui s'occupent de la pêche. Donc vous avez la parole. Merci beaucoup, c'est très bien d'être ici ce soir, enfin chez vous, c'est le matin, hein. Alors, est-ce que vous pouvez voir ma présentation là où vous êtes? Oui? Affirmatif. Merci. Donc, je vais vous passer en revue les différents transparents. Moi, je suis donc le directeur général de l'autorité de gestion de la pêche australienne. Donc, je suis responsable pour tout ce qui est pêche sur le plan fédéral. Les quotas, donc les différentes dimensions, etc. Et les différentes méthodes également. Donc nous couvrons vraiment un territoire assez vaste. Alors, ce dont je voudrais vous parler, ce sont les stratégies, comment nous avons appliqué ces stratégies. Je vais vous parler donc de la politique en matière de prise et les expériences que nous avons eu depuis plusieurs années en appliquant ces règles, et ensuite vous donner quelques conclusions et quelques réflexions personnelles en la matière. En regardant maintenant la stratégie de la politique de prise, il y a 5 ou 6 ans, le gouvernement a décidé en Australie de changer la direction prise jusqu'à présent. Nick, excusez-moi de vous interrompre. Bon, on ne voit pas votre présentation en PowerPoint. On essaie de le rétablir. Donc, en 2005, le gouvernement a décidé de changer la façon dont on gérait la pêche. On avait donc des réserves surexploitées. Alors, cela se faisait déjà pendant une période de 10 à 20 ans. Alors, un tiers ou deux tiers des réserves de poissons, c'était soit surexploité, soit venait à disparaître. Et là, il fallait trouver une solution. Oui, oui, on est toujours là. On est toujours là. Oui, donc, vous avez donc la présentation en entier. On ne vous voit plus, par contre. Donc, je peux parler un peu plus vite. En 2005, nous avons donc essayé de sécuriser notre futur en matière de pêche, des règles beaucoup plus strictes en ce qui concerne donc la prise des stocks de poissons. Et donc, il y avait également beaucoup de concessions et auxquelles on avait mis fin, on les a rachetées. Et pour ceux donc qui restaient, toutefois, on était très strict, beaucoup plus strict que par le passé. Alors, on avait donc une stratégie en 2007, et ici, on voudrait maintenir donc les réserves à un niveau acceptable par les écosystèmes. Alors, ici, il y avait également des règles de contrôle pour les prix.
Not everything that comes up in the fishing net. So moving on to the next slide.
On passe au transparent prochain. On parle de l'objectif biomasse. Donc là, on parle donc du rendement maximal économique. Nous voulons prendre la quantité de poissons qui donnerait le plus grand rendement économique. Et voilà pourquoi donc on a eu la naissance d'une autre valeur. Pourquoi BMSI Y, pour certaines espèces, c'était très difficile de le calculer. Nous avons également des critères de risque, moins de 10% de chances que les réserves tombent en deçà de la limite, et cela pour garder les réserves au niveau cible. Alors, pour le moment, nous n'avons pas encore toutes les données sur toutes les réserves. Et alors, là, nous avons la BMSY que près donc de 40%, BMSI donc à 20% du niveau non exploité. Alors, la stratégie de capture, c'est donc un contrôle plus évaluation, plus un contrôle des règles, et vous avez certainement entendu de procédures de co-gestion, ici avec une certaine flexibilité. Je prends le transparent suivant. Alors ici, le prochain transparent est un exemple comment nous l'avons appliqué. Et cette application se fait donc depuis 2007. Nous avons donc une pêche multi-espèces également avec tout l'équipement approprié. Et un certain type d'évaluation, c'est ce que nous avons d'ailleurs développé. Il y a énormément d'années, on peut établir des modèles, modélages donc à grande échelle, et nous devons évidemment tenir compte de tous ces facteurs, et ainsi donc on pourrait développer le processus pour mieux le gérer. Autre chose à ajouter en ce qui concerne l'application des règles, l'autorité est donc le preneur de décision, c'est pas le ministre. Le ministre n'a pas de rôle pour établir les différents taux, c'est donné par notre autorité. Et donc là, dans le comité, donc le comité est composé d'experts. Donc il y a une grande expertise en matière de pêche, mais également gouvernance, finance. Et donc, nous essayons d'inclure dans la prise de décision ou dans la procédure de prise de décision énormément d'expertise. Alors, également, la règle de contrôle de capture, donc c'est le premier niveau. C'est vu comment on peut appliquer ces règles de contrôle de capture. Il y a donc MSY, et là donc vous voyez les différentes approches en abscisse. Alors, il faudrait ajouter quelque chose en ce qui concerne la politique en matière de capture. Vous avez vu que le BMSY est toujours au-delà, le rendement économique est au-delà donc du BMSY. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile à capturer le poisson pour l'industrie, et cela pour aussi maximaliser les bénéfices. Donc on ne va pas maximaliser ce que l'on débarque, mais disons ce qui a donc le plus grand rendement. Alors le B limite est donc au-delà de 20% de la biomasse non exploitée. Et cela doit se faire pendant une certaine période pour permettre qu'il y ait une reconstitution de la réserve ou de l'espèce. Voilà pourquoi les règles sont appliquées de façon très stricte. Maintenant, pour le sud-est, il y a donc le premier niveau. Et nous n'avons pas encore. Nous appliquons le facteur de discount, c'est-à-dire une estimation d'un certain palier. C'est une mesure que nous utilisons, sauf si nous avons la preuve de montrer des données tout à fait différentes maintenant rapidement. Ici, vous avez un peu l'histoire quant à la performance économique de notre pêche jusqu'au moment de l'introduction. La performance économique était très variable, très faible. Et depuis lors, nous avons eu un changement substantiel en matière de rendement. Alors, nous pouvons récupérer les frais IPA pour la moitié des coûts pour l'agence pour laquelle je travaille. Et il faut s'assurer donc que la pêche reste durable. Ça, c'est donc la tâche principale de tous les experts. Alors, je continue. Donc, en résumé, cela vous montre où nous nous trouvons pour la pêche australienne. Nous avons toujours certaines espèces surexploitées, 9%. Alors, il y a pas mal d'espèces durables, 53%, mais nous avons toujours un grand nombre où il y a une certaine incertitude, donc on n'a pas été évalué, 19%. Et également, nous voulons les faire passer par les différentes étapes et nous travaillons sur 90 espèces. Nous les avons examinées en grande partie et je crois que nous pourrons finaliser cela dans quelques années. Et comme vous le voyez également, nous faisons beaucoup mieux que par le passé, c'est 15% de surexploitation, et ce chiffre est en baisse chaque année. Donc nous avons quand même amélioré énormément depuis l'introduction des nouvelles règles. Alors, maintenant, prochain transparent, ici donc, que ce sont des expériences que nous avons eues en appliquant donc le BMEY. Là, on peut calculer ce qu'est donc le BMEY pour la pêche et cela varie substantiellement entre 35 et 60% de la biomasse initiale. Donc vous voyez que ces chiffres sont raisonnablement élevés et cela conduit donc à une rentabilité. Alors l'un des défis que nous avons, c'est d'avoir les biologistes et les économistes qui travaillent ensemble. Mais bon, ce n'est pas toujours le cas. Cela a pris plusieurs années d'avoir des modèles économiques et des modèles biologiques de fonctionner ensemble. Donc là aussi, c'était assez difficile de trouver exactement ce qu'était donc pour la pêche le BMEY et également donc d'arriver au modèle actuel. Alors également, il y a des décisions à prendre en ce qui concerne donc l'analyse coût-profit. Très souvent, nous avons des clauses très spécifiques. Là aussi, il faut gérer les différentes usines de pêche qui existent également. Comme je vous l'ai dit, donc les choses sont plus rentables. Ces tendances va continuer. Nous permettons donc toutefois une petite modification du BMEY, mais nous y travaillons parce que lorsque vous voulez optimiser certaines réserves, parfois il faut essayer d'en arriver à l'équilibre. Certaines espèces sont poussées en dessous du BMEY, d'autres au-delà, et il faut évidemment essayer d'atteindre les objectifs. Pour le moment, on y travaille encore, mais dans notre pêche multi-espèces, cela prouve être vraiment quelque chose qui sera et qui est couronné de succès. Alors, prochain transparent. Où nous nous trouvons, nous, avec ce consensus, comment les stratégies étaient très intéressantes pour l'industrie et on parlait à l'époque à l'industrie que la moitié des réserves était évaluée. Maintenant, nous avons un bon échange sur les différentes espèces et cela donc grâce aussi au contrôle de la règle en matière de capture. Et il faut s'attendre, évidemment, il y a quelques difficultés. Alors, autre chose à noter, nous avons une politique, et cette politique fait partie d'une politique beaucoup plus globale en matière de pêche. Ici, les règles s'appliquent à la plupart des espèces, mais il y a également des produits secondaires. Tout ce qui est rejeté, et là, cela tombe sur d'autres politiques. Mais pour le moment, donc d'abord, on a la politique de capture, ce dont nous avons parlé aujourd'hui, et l'autre, c'est la politique en matière de rejet, c'est-à-dire où l'on rejette certaines espèces, également des oiseaux, d'autres... Là, on travaille, on essaie d'en arriver à des améliorations. Mais bon, cela donc a été un succès pendant les 3-4 années, les 3 dernières années. Merci beaucoup. Merci, Nick, pour cet exposé. C'était très utile et très intéressant d'apprendre ce qui se passe de l'autre côté du monde. Maintenant, je vous donne la parole. Moi, j'ai déjà une question pendant que vous y réfléchissez à d'autres questions. Vous dites donc que le ministre donc n'a aucun rôle à établir les quotas, mais vous venez d'appliquer donc la règle de la capture qui était décidée quand même politiquement. Est-ce que c'était très difficile à introduire donc dans la législation australienne? Est-ce qu'il y a eu de longues discussions? Non, en effet, cela existe maintenant depuis plusieurs années. Et donc on en a parlé déjà dans les années 90, il y avait énormément de débats. Et l'industrie, et évidemment, on avait marre de cette émission politique, et ils souhaitaient donc un processus tout à fait indépendant. Et par conséquent, ils ont vraiment été à la tête de ce changement. Et le ministre n'a pas un rôle. Il a donc un tout petit rôle par rapport à notre autorité, mais donc surtout pas donc à établir toutes les valeurs dont je vous ai parlé. Javier Galate de Europêche. Oui, bonjour Monsieur Reins, merci pour cette présentation. Donc, je suis le président, comme Isabelle l'a dit, donc je représente l'industrie, je représente les intérêts aussi des propriétaires. Quelles étaient les conséquences à court terme lors de l'application de ce modèle? Et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période de transition afin donc jusqu'au résultat très positif? Et comment est-ce que l'industrie a été impliquée dans ce processus de prise de décision? Merci, une très bonne question.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place la politique de stratégie des captures, en plus d'un programme de rachat des concessions de pêche. L'industrie avait le choix, soit de demander un rachat par le gouvernement de son permis de pêche au prix du marché. C'est un choix libre, mais les pêcheurs pouvaient rester en activité, sachant ce qui les attendait. Donc on a laissé les portes ouvertes. Ceci dit, il me faut également ajouter que ce qui s'est passé au-delà de ce point où on a introduit les règles de contrôle des captures et la politique stratégique des captures, eh bien, la plupart des acteurs de l'industrie sont restés en activité, ils ont compris ce qui se passait dans le processus et la plupart d'entre eux ont été agréablement surpris. Ils se retrouvent avec une activité mieux rentable, plus rentable. sans autant d'incertitudes. Donc, pour l'industrie, l'expérience a été positive. La deuxième question que vous avez posée portait plus sur le processus de décision influencé par l'industrie. Nous avions mis en place des comités régionaux pour faire comprendre aux pêcheurs et à l'industrie quelle était la politique. Ces conseils réunissaient, bien entendu, des détenteurs d'enjeux de tous bords. Et les industries, les petits pêcheurs, les élus locaux ont rejoint ce conseil. C'était véritablement une expérience participative de la mise en place des états des lieux et des solutions. Donc ces comités consultatifs locaux ont eu un impact sur l'ensemble de la politique et sur les règles de contrôle. Pour tenter de brasser aussi large que possible et de tenir compte de tous les enjeux, les communautés littorales, les activités industrielles de pêche et autres, les comités consultatifs ont permis d'alimenter la réflexion sur l'avenir de cette politique stratégique de capture et les règles de contrôle. Nous avons donc puisé le savoir-faire et les connaissances du terrain, des détenteurs d'enjeux pour mettre en place une politique qui soit cohérente au niveau de sa stratégie, mais au niveau également des outils législatifs. C'est tout un processus qui était basé sur une grande considération du savoir-faire et des enjeux de chacun. À tout niveau. Merci beaucoup. Question tout à fait différente. Une question qui se pose pour l'Europe. Mon nom est Chris Davis. Je viens du groupe des libéraux-démocrates ici au Parlement européen. Une question pour l'Europe et nos importations. Nos importations qui sont importantes de notre consommation et cette proportion des importations va devoir augmenter si nous ne modifions pas nos politiques. La démographie est galopante, c'est un effort que nous devons produire de manière collective pour réduire la surpêche. Votre point de vue et vos mères sont très différentes des nôtres. Vous avez beaucoup de pêche hauturière possible. Nous n'avons pas la possibilité de pêcher autant en haute mer ici en Europe. Est-ce que les navires australiens entrent en concurrence avec les navires chinois ou battant autres pavillons? Et quel est pour vous l'avenir? À moins que d'autres pays, bien entendu, ne vous emboîtent le pas et abordent la même approche que la vôtre, bien sûr. Il y a deux réponses possibles. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de pêche littorale en Australie, comme en Europe, mais on a également la pêche hauturière dans le Pacifique et dans l'océan Indien. On peut également faire des prises. On y rencontre d'autres navires, nos flottes de pêche. Essaye d'éviter la concurrence matérielle avec les autres navires, mais force est de constater que tout le monde puise dans les mêmes réserves, et nombreux sont ceux qui puisent dans les réserves halieutiques. Donc il y a des problèmes multiples qui se posent, et je dois admettre que je n'ai pas été impliquée dans ce processus de longue date au niveau de la pêche du thon rouge, etc. D'autres instances ont été mises en place, mais je suis d'un naturel optimiste. Nous avons connu de bonnes années avec une bonne reconstitution et des réserves qui se maintiennent à des niveaux très très sains de longue date, et cela à long terme. Mais pour d'autres réserves, pour d'autres espèces, c'est très très difficile d'apporter une bonne gestion, une gestion saine de la réserve, puisque nous sommes trop nombreux, je dirais, à pêcher dans ces eaux, dans ces réserves. Il y a trop de pays impliqués. On n'a pas le problème des pays limitrophes comme vous l'avez ici en Europe. Mais dans le cas de l'Australie, on est proche de l'Indonésie. Là, on a des soucis avec les pêcheurs indonésiens. On a dû renforcer la présence de nos patrouilles pour éviter que les pêcheurs indonésiens ne viennent pêcher dans nos eaux territoriales. Mais je reste préoccupée par la pêche internationale. Pour la pêche nationale, là, on a bien redressé la barre, mais pour la pêche dans les eaux internationales, là, il nous reste encore du chemin à faire. D'autres questions ? Oui. Fucha Banyan, du groupe des Verts, Mick, merci pour votre présentation. Je me posais des questions. Quel est l'impact des modifications que vous avez apportées sur le secteur artisanal de la pêche en Australie et en Europe? 70% des navires sont en fait des tout petits navires. Bon, je ne peux pas donner de définition, bien entendu, avec du tonnage, etc. Mais c'est important pour nous, la pêche artisanale, pour la survie des petites communautés littorales dépendant de la pêche. Est-ce que vous avez des commentaires à partager avec nous à ce propos? Ce serait très simple comme réponse et ça va me faciliter la vie. Nous ne gérons pas ce type de pêcherie. Nous avons nos collègues de l'État, nous avons une fédération en Australie où le gouvernement peut convenir avec les petits pêcheurs des modalités pour la pêche artisanale et la pêche de plaisance. Donc toutes les activités divertissantes, la pêche sportive par exemple. Je ne suis pas en position de répondre bien à votre question parce que je ne suis pas impliquée dans les organes qui ont été mis en place pour ce type de pêche. Oui, autre question. Les petits pêcheurs en Australie constituent pas une grande proportion de l'effort de pêche. Mais ils sont toutefois inclus dans les dispositions mises en place. Ils doivent donc pêcher à des niveaux permettant d'atteindre le rendement économique marginal ou le rendement maximal du durable. Nous appliquons ces modalités dans les juridictions concernées. Certains États ont mis en place certaines modalités avec les tout petits pêcheurs, mais d'autres ne l'ont pas fait. Dans de nombreuses régions du monde, il y a beaucoup d'implications, mais pour nos pêcheries, nos grandes pêcheries qui pêchent un peu partout, là, les règles s'appliquent. Pour les tout petit pêcheur, eh bien, c'est une matière qui a été fédéralisée, donc selon les États australiens, les modalités différentes s'appliquent. Autre question, ont-ils compris que vous avez un système de gestion et de concession des droits de pêche comme les QIT, les quotas individuels transférables? Comment ça fonctionne chez vous? Est-ce qu'il faut se porter candidat à l'obtention d'un ce quota individuel transférable? Est-ce que les petits pêcheurs peuvent également participer au système? Oui, il y a un système droit de pêche vaste. Nous avons des QIT et des totaux admissibles de capture, donc des TAC mis en place chaque année. Ça fait partie des plans de gestion. Nous appliquons donc ces outils, les QIT et les TAC, avec des droits statutaires de pêche qui sont des droits négociables qui peuvent passer d'une main à l'autre dans l'industrie. Le négoce donc de ces droits est mis en place. Ce système a été mis en place de longue date et je peux vous dire qu'il fonctionne bien. Je vous le recommande si vous le pouvez. Ça nous a mis 20 ans pour mettre cela en place. Donc ce n'est pas un acquis, c'est une question également de mentalité. Il nous a fallu 20 ans pour que tout fonctionne bien, pour graisser les rouages de ce mécanisme. Vous avez besoin d'une vision à long terme, d'objectifs à long terme. Nous, on a tenté l'expérience dès 1991 et on pensait en un an mettre en place l'ensemble du système. Donc c'est un objectif à très court terme et nous nous sommes leurrés. En ce qui concerne les tout petits pêcheurs, nous avons de tout petits pêcheurs, mais ils pêchent des espèces à haute valeur ajoutée, comme le homard, les mollusques, les fruits de mer, etc. Si on parle de petits pêcheurs qui pêchent un poisson plus commun, eh bien là, ce n'est pas le profil que nous rencontrons en Australie. Voilà, c'est pour les bonnes raisons qu'il y a un rapport coût-bénéfice à intégrer. C'est vrai qu'il faut avoir une activité qui ne soit pas contrôlée par les importations. Si c'est une pêche uniquement locale à haute valeur ajoutée, ça fonctionne, mais si vous pêchez des espèces qui sont
destiné à l'importation et que vous êtes un tout petit pêcheur, eh bien, vous ne tiendrez pas le coup. Il faut avoir atteindre une masse critique. Les pêcheries qui s'en sortent sont celles qui ont atteint cette masse, sont celles qui ont atteint cette masse critique et qui peuvent alors demander l'obtention de QIT, de TAC, les négociaux, etc. Et si l'industrie se porte bien, eh bien, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Merci beaucoup, Nick, de nous avoir rejoints et d'avoir partagé avec nous votre expérience. Ce fut précieux. Nous allons maintenant céder la parole au représentant de la Commission européenne qui va nous éclairer sur la vision de la Commission européenne sur le RMD et pourquoi il est important de maintenir nos réserves au-delà du RMD. Nous avions invité une autre personne qui, pour des raisons d'ordre personnel et bien triste, n'a pu nous rejoindre aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai cédé la parole. À vous, monsieur, mon voisin. Dont j'ai oublié le nom, dit madame. Merci d'éclairer notre lanterne. Merci. Mon nom est Yous Balkop. Je représente ici Enesto Panes. Ce n'est pas monsieur responsable, monsieur Pêche. Ernesto était censé être ici, mais il travaille en équipe. Malheureusement, il a dû retourner en urgence dans son pays d'origine pour des raisons personnelles. Donc il n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Toutefois, dans ce système bureaucratique, il y a toujours des doublures. Les interventions sont préparées en équipe. Je vais donc vous faire part de ce qu'Ernesto avait préparé. Je vais vous donner une lecture de ce discours. En général, je ne lis pas les discours parce que ça me semble toujours un peu trop barbant, rasoir, mais compte tenu des circonstances, je n'ai pas d'autre choix. Et pour information, les interprètes n'ont pas reçu copie de ce discours. Bon, c'est vrai qu'on va aborder des points techniques, mais je tenterai de lire posément. Si je ne suis pas claire, n'hésitez pas à m'interrompre. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions, quel que soit le moment que vous ayez choisi pour les poser.
Donc, je ne dois plus vous présenter le sujet, parce que le sujet a été bien expliqué ce matin. Toujours est-il, je suis ici pour vous faire part de la politique de la Commission en la matière, donc sur le RMD. Je ne vais pas surprendre personne que je fais référence à ce que nous avons écrit dans la communication que nous avons publiée en 2006. Toutefois, parce que je peux m'imaginer évidemment que beaucoup de personnes ont oublié les détails de cette communication et de la stratégie en tant que telle, quelle est notre approche, etc. Donc je fais référence à ce communiqué. Tout d'abord, comme cela a été dit ce matin, le RMD était donc une politique qui a été mise en œuvre après la signature donc d'une clause adoptée par tous les États membres. Et c'est donc quelque chose d'international. On s'est engagé à le suivre. Et c'était donc également souligné dans l'accord de pêche en 95. Et une fois de plus, donc, il y avait également donc l'accord en 2002. Donc, le RMD est l'objectif politique que nous devons essayer de rechercher. Vous avez peut-être entendu parler d'un objectif tout à fait différent à Goya O. On fait référence évidemment à l'année 2020, la stratégie de biodiversité de la communauté. Et la déclaration de Goya dit que d'ici 2015, nous devons atteindre l'objectif RMD, en particulier une population qui indique donc une réserve sans danger, sans impact négatif sur les autres espèces, et cela pour se tenir un bon statut environnemental d'ici 2020, comme cela a été indiqué. Ça, c'est la relation avec la politique 2020. Maintenant, sous discussion, la discussion technique, voulons-nous dire en parlant donc d'atteindre les RMD. Là, tout est exprimé en termes de biomasse et qui sera donc produit par les RMD. Et c'est donc le BMRMD auquel faisait référence Monsieur Freuse. Nous avons développé plusieurs stratégies. Nous avons l'intention de ne pas l'avoir le BMSY, mais de réduire la mortalité. Là, on a également fait référence à ce point. Donc là, il faut être très clair dans la communication de 2006. La proposition pour le règlement actuel donc, est de réduire la mortalité à des niveaux qui vont permettre aux réserves de se reconstituer. Mais je reviendrai. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pourquoi est-ce qu'il y a donc cet engagement international? Pour des raisons donc d'une stabilité opérationnelle, la biomasse est très difficile à évaluer parce que cela dépend donc des niveaux de recrutement et la productivité de la mer peut varier d'un endroit comparé à l'autre. Nous avons des bonnes périodes, de mauvaises périodes, nous avons des réserves qui diminuent énormément soudainement, donc la variété est immense et si nous voulons gérer établir les volumes maximal, cela veut dire qu'il faut échanger essayer de trouver un équilibre avec des mesures de gestion très strictes, fermeture de certaines pêches pendant certaines années. Et cela veut dire que cela veut dire aussi qu'il y aura des années productives, des années moins productives. Alors, pour le BMSY, comme je vous ai dit, nous allons nous baser surtout sur la mortalité et nous avons basé notre stratégie sur ces règles et en essayant donc d'atteindre le FMSY d'ici 2015. Et donc il y a une amélioration progressive depuis 2010. Maintenant, cette différence, il y a donc l'engagement fait à Johannesburg pour attendre le FMSY d'ici 2015. Et cela veut dire que cela ne conduit pas nécessairement à des réserves visées. Nous sommes beaucoup plus prudents comparés à l'engagement de Johannesburg d'avoir d'autres niveaux. Cela est justifié vu le fait que l'engagement de Johannesburg, mais également où cela s'avère possible, soutenu également par les États membres dans les conclusions du Conseil. Après avoir publié cette communication en 2006, nous avons donc interprété l'engagement de Johannesburg on va atteindre les niveaux d'ici 2015, mais cela veut dire, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura donc les différents volumes des stocks. Comment y arriver? C'est très difficile à dire, comme cela s'est avéré la semaine passée, où il fallait donc essayer d'atteindre les MSY. Cela dépend évidemment en forte mesure des réserves et des conditions environnementales. Les stocks vont se reconstituer lors d'une génération, disons, entre 5 à 10 ans. Cela dépend évidemment de l'espèce et des conditions de l'écosystème. Et ici, une fois de plus, lorsque nous parlons de 5 ans, nous voyons évidemment immédiatement l'année 2020. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce détail? Car nous avons trouvé ces derniers mois Comme beaucoup de personnes croient que la Commission a pris donc une interprétation très stricte de la déclaration donc de Johannesburg, et j'espère que nous l'avons pas fait parce que bon, nous avons notre propre interprétation et nous avons introduit progressivement l'interprétation de d'atteindre les objectifs de MSY et sous des conditions normales, cela conduira à une reconstitution des stocks au niveau requis, et ça nous donne la possibilité également d'avoir une certaine progressivité dans la reconstitution des stocks. Et là aussi, donc, avec un impact direct sur les possibilités de pêche. Et nous avons toujours prêché donc de garder les fluctuations le plus bas possible. Maintenant, qu'en est-il du secteur? Je crois que nous avons encore un défi majeur devant nous, toujours est-il. Nous avons été adopté une attitude très modérée, parce que la Commission, évidemment, a également une responsabilité sociale. Donc, il n'est pas possible donc de prendre des mesures draconiennes, non seulement parce que nous sommes d'avis que ce n'est pas une bonne gouvernance, mais c'est avéré que dans beaucoup de cas, c'est donc certaines mesures draconiennes conduisent à des situations vraiment néfastes pour tout le monde. Je crois que tout le monde a entendu parler, à part M. Freuse, pour arriver donc au FMSY à des rendements maximales en termes économiques et également en termes donc en termes alimentaires. Donc un niveau de durabilité est également bénéfique pour le secteur de la pêche. On a fait notre propre évaluation et nous avons pu voir que nous pouvons prévoir déjà un revenu tout à fait durable. Il y a des études par la Banque mondiale, on parle de milliards de revenus. Alors, en arrivant au MSY, en termes de bénéfices économiques, cela nous donne évidemment pas mal de possibilités. Les coûts sont réduits également, donc moins d'utilisation de combustible. On aura moins de dépenses en capital, des temps de travail moins longs. On pourra améliorer également les conditions de travail pour les pêcheurs, les salaires accrus, retour sur investissement. Donc de tous les côtés, tous les aspects, donc il faut dire que c'est positif. Je vais m'arrêter ici, toujours est-il, je voudrais faire un dernier commentaire à propos du mot « above », donc « au-delà ». Monsieur Freuse a déjà donné l'historique. Là donc, je voudrais vous dire encore autre chose. Lorsque nous faisons l'évaluation, il y a beaucoup d'incertitudes et tout le monde le sait. Lorsque nous allons établir des objectifs liés au RMD, nous avons trouvé que donc la moitié des stocks sont au-delà et les autres en deçà. Alors si nous voulons être en tout à fait sécurité dans une situation de MSY au DR MD, il faut choisir un objectif qui est plus bas en termes de la mortalité de poissons ou en termes de biomasse que le MSY. Voilà pourquoi nous avons proposé dans cette réglementation d'établir le niveau au-delà. J'espère que je vous ai donné quelques explications quant à notre approche au sein de la Commission, comment nous avons traduit cela dans notre proposition en essayant de rester donc le plus logique possible. Et maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Merci, Joost. Cela mérite quelques applaudissements.
je sais que je n'ai pas beaucoup géré le temps qui nous a été imparti. Nous attendions la liaison avec l'Australie. J'espère que les interprètes resteront avec nous encore 5 minutes. Bonjour, Lisa Bolton. Je travaille pour le partenariat des pêcheries durables. J'ai une question pour vous, Nick. Lorsque vous dites que la stratégie des captures a été mise en 2007, vous avez évoqué que les règles de contrôle des capours ont été mises en œuvre immédiatement. Et quel a été le changement? Est-ce que vous avez changé le contrôle en mer des pêches, des activités de pêche, ou est-ce que vous avez imposé des quotas? Bonne question à nouveau. Depuis la mise en œuvre des règles de contrôle de la capture, nous avons augmenté la surveillance des activités de pêche. On a une grande présence d'observateurs auprès de nos acteurs clés de la pêche pour récolter des informations sur ce qui se passe sur les navires de pêche et quelle est l'évolution des rejets en mer, à la hausse, à la baisse, évolution des débarquements, etc. Donc on a un programme d'observation qui fait partie de notre boîte à outils maintenant. On a également mis en place autre chose et des caméras notamment qui nous donne des possibilités de supervision. C'est une alternative à la présence d'observateurs parce qu'à long terme, l'idée pour nous est de réduire le coût du contrôle, de la supervision. L'électronique, ça coûte moins cher que l'humain et l'électronique, elle devient moins chère au fil du temps. Donc il y aura plus en plus de supervision électronique et moins d'observateurs à bord des navires, oui, on a dû mettre en place toute une brigade d'observateurs lorsqu'on a mis en place les règles de contrôle des captures. Ça nous semblait logique. Des questions posées à la Commission pour Joost. Moi, j'aurais une question posée à la Commission. Il y a encore une zone d'ombre qui demeure dans cette proposition de règlement. Le FMSIY doit-il être appliqué au plus tard en 2015, donc le taux de mortalité pour atteindre le RMD? C'est pas clair, il manque des mots, me semble-t-il. Ce matin, on m'a déjà rappelé qu'il y existait encore des zones d'ombre. C'est pourquoi je me suis penchée sur la question. Nous avons un préambule. Dans chaque chapitre, tout est clair, me semble-t-il. Mais il est vrai qu'il faut se référer aux articles objectifs, même si cela est compliqué et que le jargon juridique est des plus ardus. Ce que nous avons exprimé, je vais le relire, nous voulons assurer que d'ici 2015, l'exploitation restaure et maintient les réserves halieutiques au-delà de ce qui doit être présent, disponible pour atteindre le RMD. Donc, des réserves au-delà de ce qui est requis pour atteindre le RMD. Explicitement, les réserves doivent être au-delà du niveau RMD d'ici 2015. Je pense que c'est clair. J'espère que ma clarification, mes éclaircissements vous aideront. En effet, selon ces éclaircissements, il faut atteindre le taux de mortalité pour permettre d'atteindre le RMD d'ici 2015. Cela porte sur la pêche, mais ça porte également sur l'effort que nous devons faire pour collecter suffisamment de données sur les captures. Ce sera un énorme défi également pour la communauté scientifique de rassembler l'ensemble de ces données au Parlement. On a rappelé que des avancées avaient été accomplies, d'autres suivront l'année prochaine. Nous avons besoin de conseils sur une approche multi-espèces. Nous avons besoin donc d'un avis et sortira bientôt un avis qui envisage une approche multi-espèces et d'autres rendez-vous, d'autres jalons importants. C'est un avis sur les pêches multi-boissons. Là, encore un exercice de recensement qui nous donnerait d'autres données bien utiles pour une gestion et une concrétisation des objectifs que nous avons mis en place.
Si les textes juridiques ne tiennent pas la route, eh bien, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas quelle est la version que vous avez sous les yeux, mais si le texte juridique explique autre chose que ce que ne revendique le commissaire, eh bien, on en a un souci. Il va falloir corriger le tir. Dans ma contribution, je pense avoir expliqué également la ligne d'action que nous poursuivons, qui se base donc également sur le texte juridique. Merci d'avoir apporté des éclaircissements, même si je sais qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Le débat se poursuit sur l'interprétation à donner à ce texte. Il faut, d'une certaine manière, me semble-t-il, et c'est ce que j'appellerai de nouveau, communiquer mieux, parce que les commentaires au comité pêche ont été souvent de cet acabit. C'est impossible, 2015... c'est illusoire. Donc regardez, même dans votre même comité pêche, il y a encore et des sceptiques. Mais je pense que le dossier est particulièrement complexe. C'est une gageure de bien communiquer sur ceci. La mortalité qui nous permettrait d'atteindre le RMD F sur MSY a bien été expliquée par le professeur ce matin. Et moi, ça fait 3 ans que je bute sur cette notion de mortalité et des poissons avec des chiffres tout aussi étranges les uns que les autres, avec beaucoup de décimales. Et donc les échelles sont tellement différentes. Garder la mortalité des poissons à 0,9, ça parle pas aux néophytes, aux gens qui sont pas des experts. Donc merci beaucoup d'insuffler plus de connaissances dans les systèmes politiques et de permettre que le débat politique se poursuive. Une autre question soulevée principalement par Javier, me taraude encore, bien sûr, personne ne peut s'opposer, me semble-t-il, à une activité de pêche plus rentable, avec plus de captures, mais on a besoin d'une phase de transition. Le nouveau fonds maritime et pour la pêche est en préparation. Personne ne peut anticiper son contenu. Et j'espère que cet outil prévoira une période transitoire pour assurer un maintien maximal de ceux qui vivent de l'activité de la pêche. Cette rencontre, me semble-t-il, enfin, ça c'est mon avis personnel, fut particulièrement intéressante, enrichissante. J'ai pu entendre différents points de vue, y compris venus des antipodes. On a besoin de contrôle, mais on a également besoin, au-delà de la vie scientifique, d'un positionnement politique. Et tout un débat a eu lieu en Australie avant que soit mise en place la stratégie des captures. Et en Europe, on a besoin de cela aussi. On ne peut pas confier l'ensemble de la responsabilité de ceci à la communauté scientifique, leur disant, ben, à vous de déterminer quelles sont les choses. Il faut que nous, élus politiques, pesions les tenants, les aboutissants, les enjeux, les gains, les pertes potentielles, pour ensuite faire naître une décision politique sur le contrôle des captures, ce qui devrait être ces contrôles. Et l'industrie doit avoir vos chapitres, et l'ensemble des détenteurs d'enjeux doivent être consultés avec le plus grand sérieux. Je pense également qu'il a été utile de vous entendre expliquer en Australie tout le processus d'évaluation, d'évaluation transparente. Tout ce ne fait pas à huis clos où des éminences grises décideraient de tel ou tel chiffre, mais l'évaluation doit être véritablement transparente. Et c'est un autre enseignement que nous tirions des États-Unis lors d'un déjeuner la semaine dernière. J'ai appris que le processus d'évaluation a été des plus minutieux et particulièrement long, participatif, demandant la consultation de chaque acteur. C'est une décision consensuelle qui va émerger sur les chiffres. L'industrie ou une faction de scientifiques ne va pas imposer les chiffres dans... Bon, tout cela est un long processus, minutieux. Ensuite, ces chiffres sont transmis aux gestionnaires. Et c'est le modus operandi qui doit être le nôtre en Europe. C'est la voie à suivre. Dernière remarque, si vous me permettez, il est également bien utile, Rainer, que vous souligniez que le RMD n'est pas toujours... La panacée n'est pas toujours souhaitable parce que parfois, lorsque vous regardez donc le cabillaud en mer Baltique, on a de longue date mis en place des plans de gestion à long terme où l'on tablait sur une progression des captures de 15% chaque année. Mais si on appliquait le principe du RMD sur le cabillaud dans cette mer aujourd'hui, eh bien, les mêmes chiffres ne seraient pas atteints. La gestion à long terme et le plan de gestion à